Bonjour, bienvenue, il est 10h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes, vos réactions au score historique de l'extrême droite en France. Quelle image vous renvoie le paysage politique français? Mais d'abord le journal. Bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Et nous aussi, on continue à décrypter et analyser les résultats de ce premier tour des législatives en France avec cette question. Le traditionnel front républicain censé faire barrage au RN, arrivé en tête, aura-t-il lieu dimanche prochain? Question qui va beaucoup se poser. Il y a 300 triangulaires, c'est un record. Dans ce journal également, la Hongrie de l'eurosceptique Viktor Orban qui assure la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne. Et puis France-Belgique et Portugal-Slovénie, les huitièmes de finale de l'Euro de football continuent. Les consignes de vote ne fonctionnent plus, assure ce matin sur notre antenne Fabrice Leggeri, porte-parole de la campagne des législatives pour le Rassemblement National, et il le confirme. Le président du parti Jordan Bardella n'acceptera de devenir Premier ministre qu'en cas de majorité absolue à l'Assemblée Nationale. Elle n'est pas tout à fait acquise d'après les projections des instituts de sondage, mais elle n'est pas encore impossible non plus, alors que le RN est arrivé en tête du premier tour hier avec plus de 33% des voix, devant l'Alliance de gauche du Nouveau Front Populaire, plus de 28%, et devant le camp présidentiel crédité d'un petit peu moins de 22%. Alors à gauche, dès hier soir, plusieurs responsables ont donné une consigne de vote claire. En cas de triangulaire où leur candidat serait en troisième position et celui du RN premier, alors ils se retirent, ce que certains ont d'ailleurs commencé à faire. En attendant, l'autre consigne, c'est qu'il faut continuer à mobiliser les électeurs pour tenter de déjouer les pronostics. Reportage d'Aurélien Devernois.
Non ! Des grimaces parmi les militants insoumis à l'annonce des résultats et au milieu, ce cri du cœur de Florian.
Ça me fait mal, ça me fait souffrir, ça m'emmerde profondément.
Quelques instants plus tard, Jean-Luc Mélenchon monte à la tribune et préfère voir le positif de son point de vue.
Ce vote a infligé une lourde et indiscutable défaite au président et à la prétendue majorité présidentielle.
L'enthousiasme est toutefois absent, il faut attendre 2 heures plus tard, place de la République, pour que les discours s'emballent.
Créons ce mouvement d'espérance dont la France a besoin!
Face à quelques milliers de Parisiens, le dirigeant communiste Igor Zamichey tente d'oublier la défaite dès le premier tour de son leader Fabien Roussel.
Rejoignez le Front Populaire!
Le patron des socialistes Olivier Faure prend de son côté la foule à témoins et en appelle au camp présidentiel.
En 2017, en 2022, aucun d'entre vous n'a apporté sa voix à l'extrême droite. Alors maintenant, c'est à leur tour de faire en sorte que l'extrême droite ne puisse pas gouverner.
Les insoumis de Manuel Bompard préfèrent eux croire à une mobilisation des 34% d'abstentionnistes.
67% de participation, c'est pas 80% de participation.
Les dirigeants du NFP le savent pourtant, il sera bien difficile de priver le RN de la victoire qui lui semble promise, mais pas question de baisser les bras.
Lâchez rien et la bataille continue.
Reportage d'Aurélien Devernois et Steven Nesli. Du côté de la majorité présidentielle, la consigne pour le second tour est un petit peu plus floue. Des désistements possibles pour, je cite, avantager un autre candidat qui défend les valeurs de la République. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal, mais il a laissé planer le doute sur un éventuel soutien accordé au candidat issu de la France Insoumise, qui serait en meilleure position parfois, pourquoi pas, pour l'emporter. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, était plus direct ce matin sur France Inter. Ni RN, ni LFI. Et cette soirée électorale, les 60 000 spectateurs du Hellfest, le festival de métal à Clisson dans l'ouest du pays, ils l'ont suivi. Avec un petit peu d'effroi parfois, alors que le monde de la culture s'inquiète justement d'une arrivée au pouvoir du RN. Reportage de Thomas Arms.
À l'annonce des premiers sondages de sortie d'urne, pas de grands cris de foule. Laurent Perrault et sa femme regardent leur téléphone, ils sont viticulteurs et habitent Clisson. Ils s'attendaient un peu au résultat.
De toute façon, le Rassemblement National, c'était prévu qu'il fasse 30%. Malheureusement, c'était prévu. Non, ça me choque pas parce que bon, on s'attend à ça.
Même réaction pour Pascal Gueug, directeur de la Fédération des musiques métalliques.
C'est plutôt bien qu'il y ait eu un gros taux de participation. Ce qui est moins bien, c'est que ça confirme quand même les chiffres du RN. Donc ça, c'est pas trop rassurant pour nous. Et pour la culture en général, en tout cas, ça c'est sûr.
Par contre, les festivaliers du Hellfest sont un peu surpris, comme Mathieu.
On est dans la merde, c'est mal barré. Je repense plutôt aux années Vitrolles, le sous-marin qui ferme. Il y a un passif déjà.
Bertrand espère lui néanmoins un résultat différent et un RN moins puissant à l'issue des triangulaires du second tour dans une semaine.
Je pensais que le Front Populaire il aurait pu faire un peu plus. Après, ça reste que le premier tour, on verra. Le deuxième, s'ils refont 34%, ils n'auront pas beaucoup de sièges à la fin, donc on y croit toujours sur le deuxième tour. Faut pas que l'extrême droite passe, quoi.
230 artistes de la scène rock et 70 labels français ont signé une pétition contre le RN et appelé à faire barrage. Thomas Harms, au Hellfest à Clisson, RFI.
Et pour retrouver notre édition spéciale de ce matin avec Arnaud Pontus, Nathalie Amar et leurs invités, rendez-vous sur RFI.fr. En Mauritanie, pas encore de proclamation officielle des résultats de la présidentielle. Le dépouillement et la compilation de 100% des suffrages exprimés est terminé quand même. Et l'avance du sortant Mohamed Ouldtcher El Razouani semble assez irrattrapable, mais son principal opposant, Biram Dabeid, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats de la CENI. La Belgique n'est plus à la tête du Conseil de l'Union européenne. C'était prévu, tous les 6 mois ça tourne. Et cette fois, c'est la Hongrie qui en prend la présidence. Une présidence eurosceptique, donc, incarnée par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Il assure que son action sera impartiale, mais hier, il a aussi annoncé son intention de former un nouveau groupe parlementaire dans l'hémicycle européen, avec le parti d'extrême droite autrichien et le mouvement centriste de l'ancien Premier ministre tchèque Andrej Babiš. Un groupe à lui, plutôt que celui des conservateurs et réformistes européens ECR, ou encore ID, le groupe Identité et Démocratie dont fait partie justement le RN. Une annonce, je le disais, à la veille d'assurer la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Difficile de ne pas y voir une tactique, selon Arsenio Cuenca, doctorant à l'École politique des hautes études et chercheur spécialiste de l'extrême droite.
C'est très probable parce que c'est la rentrée en force de Viktor Orban au Parlement européen. C'est la manière qu'il va avoir de commencer la présidence de l'Union en tant que leader qui porte une certaine identité politique au sein de l'extrême droite européenne, c'est-à-dire un parti du gouvernement qui garde le pouvoir et dont le leader Viktor Orban est réélu avec de meilleurs scores à chaque élection. Donc oui, tout à fait, Viktor Orban va essayer d'orienter les politiques d'extrême droite sur sa propre ligne politique.
Des propos recueillis par Romain Lemaresquier. Des vents soufflant à plus de 200 km/h s'approchent des Caraïbes. C'est l'ouragan Beryl, le premier de la saison, et il est extrêmement dangereux. Plusieurs îles sont en état d'alerte. État d'urgence même pour celle de Tobago, de l'archipel de Trinité et Tobago. Toutes les écoles là-bas ont été fermées. En France, c'est une tempête baptisée Roya qui, il y a 4 ans maintenant, avait détruit un tunnel. Le tunnel de Roya, reliant la vallée du même nom à l'Italie. Cette tempête, elle s'appelait Alex, pardon. Après un gros chantier de reconstruction, le tunnel rouvre aujourd'hui. Mais l'enseignement tiré de ce drame reste d'actualité. Des phénomènes climatiques violents, il y en a de plus en plus. La faute au réchauffement climatique. Et ça menace directement les infrastructures du pays, routière notamment, Simon Rosé.
En octobre 2020, la tempête Alex ravageait le sud de l'Europe. Les pluies diluviennes, le vent et les glissements de terrain avaient tué 11 personnes en France et fait plusieurs milliards d'euros de dégâts. 4 ans plus tard, le tunnel de la vallée de la Roya, alors détruit, va rouvrir, mais reste la question de la préparation des infrastructures, d'autant plus que de tels événements seront plus fréquents et plus intenses, dopés par le réchauffement climatique. Les ponts apparaissent ainsi particulièrement vulnérables sur les plus de 200 000 du pays. 1 sur 4 est dégradé et nécessite des travaux de remise à niveau. Les routes sont elles aussi exposées. Les inondations du nord de la France en début d'année l'ont montré. C'est 10% du réseau local qui a alors été coupé ou endommagé. La sécheresse et la chaleur constituent également une menace. Elles fissurent et déforment la chaussée. Le phénomène prend de l'ampleur depuis une dizaine d'années. Pour s'en prémunir et s'adapter, la facture s'annonce salée. Une étude de 2021 avait estimé qu'il faudrait 22 milliards d'euros d'ici 2050 pour le million de kilomètres du réseau routier et 12 autres milliards pour les ponts.
Simon Rosé du service environnement de RFI. Pas de tempête sur les routes du Tour de France, à part peut-être une tempête nommée Pogacar. Le Slovène a pris le maillot jaune hier lors de la deuxième étape, remportée par un Français, Kevin Vauclin. Aujourd'hui, place à la dernière étape italienne de cette grande boucle, près de 230 km jusqu'à Turin, avec des sprinteurs attendus au tournant. Et puis l'Espagne, qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro de football. Victoire 4-1 face à la Géorgie. Ça a été beaucoup plus compliqué pour l'Angleterre, qui a même frôlé l'élimination, menée au score tout au long du match avant finalement d'arracher les prolongations en égalisant dans la toute dernière minute du temps réglementaire. Finalement, les Anglais se sont imposés 2-1 face à la Slovaquie. Et de nouveau 8e de finale ce lundi. La France affronte la Belgique à 16h, temps universel. Et puis à 19h, ce sera le Portugal face à la Slovénie. Merci d'écouter RFI, 10h10 à Paris, 2h de moins en temps universel. Vous retrouvez Juan Gomez pour rappel sur l'actualité.
Avec les auditeurs de RFI, bien évidemment. Merci Gaëtan.